En quoi consiste le mystère de la Providence? Le mystère de la Providence consiste à croire que tous les événements, heureux ou malheureux, qui arrivent sur Terre, sont permis par un Dieu qui gouverne le monde avec un amour et une sagesse infaillibles. Ce mystère, nous l'affirmons dans le Credo lorsque nous chantons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Ce dogme fondamental de notre foi est hélas contesté aujourd'hui par un certain nombre de théologiens de la vieille Europe qui l'estiment beaucoup trop mystérieux. Dieu, pense-t-il, respecte tellement la liberté de ses enfants qu'il a décidé de se retirer du monde pour laisser les hommes l'organiser ou le désorganiser selon leur bon vouloir. Tout puissant d'amour, plein d'amour et de compassion, Dieu assisterait impuissant et malheureux au déroulement de notre histoire, à la mort d'un enfant ou aux atrocités d'un génocide. Après de telles épreuves, disent les contestataires de l'idée de Providence, après de telles épreuves, on ne peut plus dire avec Thérèse que tout est grâce. Ou avec Zélie et Louis Martin, les parents de Sainte Thérèse, que Dieu a permis la mort de leurs deux petits Joseph. Les chrétiens auraient enfin découvert, à l'entrée dans le troisième millénaire, que saint Augustin s'est complètement trompé en affirmant que le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres, s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. C'est le texte que le catéchisme d'Église catholique place au cœur des paragraphes consacrés à ce mystère de la Providence. Eh bien, il est évident que c'est un fameux mystère et que nos pauvres mots humains sont impuissants à l'exprimer adéquatement. Car dire que Dieu Tout-Puissant permet la mort d'un enfant, et c'est avoir l'air de dire que dans sa toute-puissance, Dieu pourrait empêcher cette mort, mais qu'il lui donne la permission de frapper l'enfant. N'est-ce pas faire de Dieu un complice du mal quand on dit qu'il permet le mal alors qu'il est tout-puissant? Ce serait affreux. Car Dieu, rappelons-le, avec toute la Bible, Dieu a vraiment en horreur le mal. Il ne le veut absolument pas, même s'il réussit à le faire entrer dans son plan. Les chrétiens ne sont pas panthéistes. Ils ne croient pas que le monde n'est qu'une simple émanation de l'unique réalité divine. Ils ne pensent donc pas comme les hindous ou comme les adeptes du Nouvel Âge que tout est bien. Non, Dieu a horreur du mal. Il est en colère contre le péché des hommes et contre tous les maux qui abîment ses enfants. Il en souffre, ses entrailles en sont remuées, disent les prophètes. Mais cette souffrance, mystérieusement, n'entame nullement la sérénité de la Trinité bienheureuse célébrée par tous les saints, ni la joie de tous les bienheureux du paradis, car il voit dans le paradis que Dieu est capable de faire servir le mal à la réalisation d'un bien plus grand. C'est une alchimie qui nous échappe la plupart du temps, mais qui fait l'admiration de toute la cour céleste. Comme le dit saint Paul, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Un verset de l'Épître aux Romains qui a été médité par des millions et des millions de chrétiens depuis 20 siècles et qui leur a permis de vivre leurs épreuves avec sérénité puisque ces épreuves, c'est Dieu qui, dans son amour, les permet pour un plus grand bien. Suite à un accident, se produit parfois une heureuse rencontre. Transporté à l'hôpital, un jeune y a été soigné par une charmante infirmière qui est devenue sa femme, et avec l'aide avec laquelle il a eu de beaux et heureux enfants. Cet accident, dit-on, a été vraiment providentiel. Mais pour un chrétien, tout accident est providentiel. Comme le dit Madeleine Delbrel, nous croyons à la providence et nous vivons comme si nous croyions au hasard. De là viennent les incohérences de notre vie, ces mauvaises agitations et ces mauvaises passivités. Il n'y a pas de peine de hasard. Les chrétiens n'oublient jamais en effet que pour respecter le mystère divin, il faut affirmer simultanément que Dieu est infiniment heureux et infiniment compatissant. Si Dieu est impassible, affirme saint Bernard, il n'est pas dénué de compassion, puisque rien ne lui est plus inhérent que d'avoir toujours pitié et de pardonner. C'est pourquoi, continue-t-il, les bienheureux habitants du ciel participent à la compassion de Dieu pour les hommes. Délivrés de la souffrance, ils compatissent à notre souffrance. Leur sensibilité n'est pas diminuée, elle est transfigurée. En se revêtant de Dieu, ils n'ont pas dépouillé toute affection pour nous. Libérés de la faiblesse, ils ne le sont pas de la pitié, car la charité ne périt jamais. C'est à cause de ce mystère de la providence que les saints les plus bouleversés par la misère de leurs frères osent croire à la joie inaltérable de Dieu. Rien ne trouble le sourire de la bienheureuse et toujours tranquille Trinité, écrivait le père de Foucault. L'ermite est toujours heureux et sa vie s'écoule dans la pensée et la joie de l'infini bonheur, de l'immuable paix de la bienheureuse et toujours tranquille Trinité. Écrit-il le 23 décembre 1903 à son ami Henri de Castries. Comme le dit justement Marthe Robin lorsqu'elle parle de ce qu'elle souffre chaque semaine, en revivant dans son cœur et dans son corps la passion de Jésus. On a l'impression, disait-elle, que Jésus souffre en nous, hors du temps, hors de l'espace, mais c'est Jésus dans sa gloire. Comme c'est bien dit. Oui, c'est bien Jésus qui revit dans les membres de son corps mystique les souffrances de sa passion, tout en étant immergé depuis son ascension dans la gloire et le bonheur infini de son Père. Rappelons que l'acceptation des desseins impénétrables de la Providence dépasse totalement nos pauvres forces humaines. C'est Jésus qui, par son esprit, fait passer dans notre cœur quelque chose de cette acceptation, de ce oui inconditionnel qu'il a réussi à donner à la volonté de son Père depuis son entrée dans le monde jusqu'à Gethsémani. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et Jésus a prié pour être fidèle à la mission que son Père lui avait confiée. Il a prié pour résister à la suggestion de Satan, à savoir conquérir l'adhésion des foules par la multiplication de prodiges éclatants. Enfin, ce qui est également très mystérieux dans ce dogme de la Providence, c'est qu'on ne voit vraiment pas comment Dieu peut gouverner le monde sans confisquer notre liberté. Car nous ne croyons absolument pas, comme le pensaient les Grecs, que toute notre vie est conditionnée par un destin divin, implacable, qui nous tomberait dessus, et contre lequel nous ne pourrions rien, contre lequel nous ne pourrions que nous révolter en vain. Et nous ne pensons pas non plus, comme Luther et Calvin, que la grâce de Dieu est tellement toute puissante que nous ne serions plus libres de nous y soustraire. Nous serions prédestinés à faire le bien ou le mal. Oh non, toute la Bible proclame que nous sommes libres, absolument libres, de pécher ou non. Nous ne sommes pas des marionnettes dans la main de Dieu. Et pourtant, le Seigneur mène le monde. C'est ce qu'exprime la très ancienne icône, où l'on voit le Christ tout-puissant, Pantocrator, assis sur un trône, bénissant les hommes de la main droite et tenant dans la main gauche le globe de l'univers. Oui, sans manipuler notre liberté, le Seigneur réussit à faire servir à notre bien tous les faux pas que nous commettons. Résumons. Croire à la providence, c'est donc affirmer que même les choses les plus affreuses, et donc absolument contraires à la volonté divine, Dieu réussit à en faire quelque chose de merveilleux. C'est un peu comme si nous avions tous une partition à jouer dans le grand orchestre que Dieu dirige, et que nous passions notre vie à faire des fausses notes. Seule la Vierge Marie n'en a jamais fait. Eh bien, malgré toutes ces fausses notes, nous sommes en train de composer avec Dieu une magnifique symphonie. Dans le ciel, nous ne pourrons plus nous lamenter. Tout ce qui nous aura paru effroyable sur terre, et qui l'aura été, nous apparaîtra admirable. Ce ne sera pas une apparence, mais la réalité. C'est le cantique nouveau que nous chanterons éternellement, « Sanctus, Sanctus, Sanctus ». Tu es vraiment tout-puissant, Seigneur. Père, tu es vraiment super. C'est le chant que ne cessent de chanter déjà les anges et les saints du ciel. Et oui, comme tous les mystères de notre credo, celui de la Providence fait partie de la bonne nouvelle qui réjouit le cœur des hommes et que nous avons à proclamer jusqu'aux périphéries de l'Église, nous rappelle notre pape François.